voici un peu du mail au café oriental. J'ai réussi totalement cette
étude. Voici Cédric de Montmartre, au café hongrois. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Selon l'UNICEF, seuls 52% des Congolais ont accès à l'eau potable. Pour améliorer cet accès en RDC, certains observateurs estiment qu'il faudrait prioritairement donner plus de moyens à la régie des eaux pour étendre son réseau de distribution. Tandis qu'une autre opinion pense qu'il va falloir décentraliser et libéraliser ce secteur et améliorer ainsi la fourniture et la distribution de l'eau potable. Qu'en pensez-vous? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel si vous avez besoin de nous joindre en direct. Vous pouvez également commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Inutile de vous assurer la mise en onde de cette émission. Lufé Zabongonda est au standard. Jire Lugembo est à la réalisation et la coordination. Et Pierrot et la Miju vous la présentent sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Paroles aux auditeurs, Pierrot et la Miju.
C'était à la célébration de la journée mondiale de l'eau où on estime que 80% des Congolais en milieu urbain ont accès à l'eau potable, tandis que 20% en milieu rural. Comment arriver à améliorer la desserte en eau potable en RDC? C'est la question au centre de notre échange, de votre piste de solution dans votre milieu et surtout les témoignages. Ça sera le bienvenu en cette émission. Nous recevons dans ce studio Franck Abeille, chef de section eau, hygiène et assainissement à l'UNICEF en RDC. Franck, bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot, merci.
Et le constat, comment il a été fait? C'est par rapport à quel indicateur sur ces pourcentages d'accès à l'eau potable en RDC?
Bon, il existe plusieurs types d'enquêtes. Les chiffres que là vous citez proviennent d'une étude qui s'appelle GMP, Global Monitoring Program, qui est une étude coordonnée entre UNICEF et l'OMS. Et qui se base principalement sur une étude au niveau des ménages. Donc, c'est-à-dire que ce sont des questionnaires qu'on adresse au niveau des ménages de toute typologie, de tous les quintiles. Quintiles, on entend les différentes strates de richesse au niveau des populations. Donc voilà, donc il ne se repose pas sur des données statistiques liées à des accès, mais vraiment directement sur des questionnaires donnés vis-à-vis de la population.
Et quand on dit on estime à 80% en milieu urbain, c'est fourni uniquement par la régie des eaux, c'est la société nationale que nous avons oubliée. Il y a aussi d'autres sources qui permettent à la population d'accéder à l'eau potable en milieu urbain.
Alors, juste une toute petite correction, si je peux me permettre. On est à 70% en milieu urbain, et entre 25 et 28 en milieu rural.
Oui, oui.
Ensuite, effectivement, dans les grandes villes, alors après, il faut voir ce qu'on appelle milieu urbain, mais dans les grandes villes, on se base, c'est principalement la régie des eaux qui est un acteur. Qui est un acteur de distribution. Maintenant, il existe également quelques réseaux autonomes où, dans les proches banlieues, donc qui parfois sont considérés comme faisant partie du milieu urbain, on retrouve également des points d'eau plus traditionnels avec des bornes fontaines, ce qui permet de comptabiliser comme donnant un accès à de l'eau en quantité et en qualité appropriée.
Et l'intervention de l'UNICEF dans ces domaines se trouve à quel niveau?
Nous, au niveau de l'UNICEF, on travaille principalement aujourd'hui dans le milieu rural, au travers du support à un programme gouvernemental qui s'appelle Village et École Assainie, et qui vise effectivement à doter, à permettre au village, donc à les doter des moyens de gérer un point d'eau, de comprendre les notions d'hygiène de base, et également de mettre en place tout ce qui est pratique d'assainissement, parce que l'eau seule en elle-même ne répond pas à des problèmes de santé, ne répond pas à des problèmes économiques. Il faut regarder là. Avoir une approche assez holistique. Donc on va regarder effectivement l'usage de la latrine, on va regarder quand est-ce qu'il y a un village nettoyé, on va regarder si les gens se lavent les mains, donc plein de petits détails, mais qui permettent effectivement d'avoir une action complète. Nous, notre action aujourd'hui en termes de chiffres, donc en termes de support au gouvernement, c'est un programme qui, à horizon 2017 et ayant commencé en 2008, va toucher à peu près, que je vous dis ça, 9000 villages, va toucher environ 2500 écoles. On estime à un peu moins d'un million donc d'écoliers du primaire qui auront bénéficié de ce programme-là, et on estime la population à peu près à 7 millions de Congolais, donc à peu près entre 8 et 9% suivant les différentes statistiques dans les milieux, et ça c'est très important, ruraux.
Ah, les milieux ruraux. Mais vous qui êtes, vous accompagnez le gouvernement dans ces domaines, alors les difficultés aujourd'hui pour améliorer l'accès à l'eau potable, c'est sur quel niveau?
Alors il y en a plusieurs. Je pense que la première difficulté, réside déjà dans le fait de comprendre qu'il faut payer pour avoir de l'entreprise. Mm-hmm. On comprend facilement que il faut acheter un crédit pour pouvoir téléphoner, par exemple, mais se dire non, de l'eau, aujourd'hui, en RDC, à peu de choses près, on a 4 DC, on en ramasse. Et c'est vrai. La RDC a plus de la moitié des ressources hydriques de tout le continent africain, donc c'est énorme. Mais c'est pas parce que l'eau est disponible que l'eau est forcément appropriée à la consommation humaine. Donc il faut faire comprendre à la population que bah, voilà, pour avoir accès à une certaine eau de certaine qualité, bah, y a des services qui vont derrière. Quand on met une pompe, il faut la entretenir. Quand on met des tuyaux, par exemple, je pense à la régie des eaux qui a besoin d'assurer une certaine maintenance, il faut payer. Et ça, ce ne sont pas des choses assez évidentes. Donc on a cette première partie. On a aussi un cadre législatif qui aujourd'hui est en train de se développer, qui a mis très longtemps à se développer. Il y a eu notamment une très grosse innovation début 2016 avec la promulgation par le chef de l'État de la loi sur l'eau, donc qui justement apporte une réelle décentralisation du secteur et une libéralisation du secteur pour éviter le fait que tout soit concentré dans les mains de la régie des eaux, qui, voilà, ce qui va permettre effectivement d'apporter d'autres acteurs, peut-être d'apporter de nouvelles solutions à un niveau provincial, tandis que le niveau national va se concentrer vraiment sur les politiques, sur les stratégies, sur les grands axes à définir.
Et quand vous évoquez les innovations de cette loi par rapport à la libéralisation du secteur, beaucoup de personnes craignent que la libéralisation ne puisse amener que l'eau ne puisse avoir un coût le plus élevé, parce que celui qui va investir dans le domaine voudrait bien rentabiliser son investissement. Et déjà, on sait qu'avec le degré de précarité que les gens ont, même pour payer les factures de la régie, ça se pose un problème. Mais quand il y aura autant de personnes qui peuvent investir dans les secteurs et que les secteurs deviennent aussi trop commerciaux, on a aussi peur que les gens ne soient plus en mesure de pouvoir payer les factures et accéder ainsi à l'eau potable.
Ouais, c'est une peur que je peux comprendre assez légitime, mais je vais reprendre mon exemple du début. Pourquoi est-ce qu'on accepte de payer pour acheter du crédit pour son téléphone et qu'on n'accepterait pas de payer pour de l'eau? Ensuite, l'intérêt d'un secteur libéralisé, pas outrance non plus, mais c'est que la mise en concurrence permet également effectivement d'ajuster les tarifs. Ça, je pense que c'est important de s'assurer d'un service de qualité. Et puis, et surtout de fournir ensuite à l'État, aussi de donner des moyens à l'État pour le contrôle, pour la supervision, ce qui est aussi indispensable. Et en deux petits chiffres, il faut savoir qu'aujourd'hui, d'après les données statistiques qui sont issues de la Banque mondiale, quand on investit $1 dans de l'eau, dans la fourniture d'eau, ça rapporte globalement, sur toute la chaîne économique globale, $4. Donc c'est assez conséquent. Et les pays aujourd'hui qui ne disposent pas des moyens de fournir à une population une eau de qualité en quantité suffisante, on estime que la perte du PIB est de près de 2% minimum, entre 2 et 7%. Donc ce sont aussi des pertes assez lourdes. Et si on investit dans ce secteur, les retombées devraient être assez importantes.
Nous avons mentionné les appels des Bukavu dans le site qui vous mettent au président ici à Kinshasa et Junior à Mandaka à 0-81-890-63-15. C'est le numéro d'appel si vous avez besoin de nous joindre en direct. Mais n'oubliez pas aussi de nous joindre. Il y a aussi ces débats qui est sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Vous avez besoin de pouvoir commenter, venir nous rejoindre sur cette page.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Amos, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour Pierrot, bonjour au peuple congolais qui nous suit, bonjour à l'invité au studio.
Nous
disons merci pour le sujet au studio, mais nous disons, les auditeurs qui nous suivent doivent savoir que j'utilise que là les recherches qui ont été faites montrent que le Congo seul regorge 53% des eaux. Mais c'est un problème sérieux de constater que nous qui avons 53% des eaux, il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas de l'eau jusque-là. L'eau pose problème, que ce soit dans nos villes, que ce soit dans nos territoires, dans les milieux périphériques. Partout avec les démocratiques du Congo, il n'y a pas d'eau. Là, l'UNICEF parle qu'il y a 52% qui reçoivent l'eau au Congo. On peut se poser la question, quel genre de l'eau que ces 52% reçoivent, mais aussi il faut voir la qualité de cette eau-là. Parce que si j'essaie d'abord de parler de la quantité que ces gens reçoivent, vous allez comprendre que c'est tout à fait un problème au niveau de toute la République, comme j'ai allé dire tantôt. Au niveau de la République, vous allez comprendre. Je prends d'abord l'exemple de nous qui vivons à Bukavu. Beaucoup de robinets qui ont plus de 10 ans, 12 ans, sans que l'eau ne coule. Mais chose grave, la Régie des eaux continue toujours à envoyer des factures chaque mois. On envoie des factures au moment où ces ménages ne reçoivent pas de l'eau. À part ça aussi, au niveau de l'intérieur, je suis arrivé dans une localité où vous rencontrez les gens font des milliers de kilomètres pour qu'ils aient de l'eau. Au moment où nous avons beaucoup d'eau, comme on a dit, soit 53% au niveau de toute la République par rapport à d'autres pays. La qualité, n'en parlons plus. Vous allez voir que c'est une eau trop sale là. Je vois des gens en Gouba, ici à Bukavu.
Mais je crois bien que effectivement, c'est le constat qui a été fait. Hein, les différentes enquêtes, c'est ça, c'est connu, on a des difficultés sérieuses. Mais pour vous aujourd'hui, s'il faudrait permettre à la population de Bukavu de pouvoir accéder à l'eau potable, au-delà de toutes les difficultés que vous connaissez, alors quelles sont vos pistes de solutions aujourd'hui? Ce qui peut être fait plus facilement à Bukavu pour accéder à l'eau potable?
Ok, merci. Je vais dire des solutions. Il faut d'abord comprendre que si du moins on parviendrait à respecter les textes, on aurait déjà de l'eau. On ne serait plus en train de constater la difficulté que nous constatons aujourd'hui. Parce que vous allez vous souvenir, Pierrot, que même dans les cinq chantiers, le chef de l'État avait parlé de l'eau et de l'électricité. Malheureusement, tout ce qu'il a donné comme programme, ça n'a pas été respecté. Par rapport à votre question, moi je pense que du moins il y avait bonne volonté de nos dirigeants de vouloir de servir la population en eau potable. D'abord, c'est d'échanger tous les matériaux déjà, tellement déjà usés, et qui datent de l'époque coloniale. Il y a d'abord ce problème-là. Deuxième problème, il y a aussi le fait qu'on a politisé beaucoup la Régie des eaux. Au lieu qu'on engage des techniciens, les experts du domaine, on prend déjà parce qu'il est de tel parti politique, il est frère à telle autorité, voilà ce qui cause aussi votre problème. Il fallait d'abord qu'on dépolitise la Régie des eaux. Mais aussi, il faut voir à part la Régie des eaux, comment on peut créer d'autres entreprises qui peuvent aider déjà parce que du fait que la Régie des eaux se voit seule, qui dessert la population en eau potable, il n'y a pas de conquérant dans ce domaine. Voilà pourquoi la Régie des eaux ne s'intéresse plus à fournir la population en eau potable. Et c'est tout à fait un problème sérieux. Et nous constatons avec regret que non, ce sont nos dirigeants qui sont à la base de cette question parce que, si du moins, ils pouvaient permettre qu'il y ait d'autres organisations ou d'autres entreprises qui peuvent aussi intervenir dans la défense de eau potable, il n'y aurait pas ce problème.
Alors, pourquoi, à moins que vous avez suivi les débuts de l'émission, l'invité a dit que la loi sur l'eau a été déjà promulguée par le chef de l'État. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le marché est ouvert, le secteur est ouvert, la libéralisation déjà intervient. Le grand problème souvent dans notre pays, c'est parce qu'il y a des lois qui sont discutées au Parlement jusqu'à leur promulgation et les gens ne sont pas assez informés là-dessus. Mais vous souhaitez quand même qu'on ait une loi qui puisse permettre à ce que d'autres personnes investissent dans le secteur de l'eau. Merci beaucoup. Qu'on puisse créer d'autres entreprises au-delà de la Régie des eaux qu'il faudrait aussi rendre encore performante en évitant sa politisation. Merci beaucoup à moi de nous avoir appelé de Bukavu dans la province du Sud qui vous mettre trésor. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot.
On vous écoute.
Bien, merci. Je pense que l'eau fait partie de ce qu'on appelle besoins sociaux de base. Il y a l'eau, l'électricité, le logement, la santé, l'éducation, et que sais-je encore. Parmi tous ces besoins, il n'y a que des problèmes. Et l'eau constitue un problème majeur dans notre pays. J'entends souvent dire que l'eau, c'est la vie. C'est que si dans notre pays, nous connaissons les problèmes de l'eau, on peut vite conclure qu'il n'y a pas la vie dans ce pays. Et bien, si je peux bien souligner ces problèmes, bon, d'abord, dans la ville de Kinshasa, la capitale du pays, où il y a toutes les institutions politiques nationales, toutes les autorités, les hautes autorités du pays travaillent, l'eau constitue un problème délicat. Bon, je peux citer quelques quartiers, comme dans la commune de Ngaliema, le quartier Ma Campagne, Mamayemo, on parle souvent de pompage. La Régie des eaux envoie l'eau à 1h, à 2h du matin, ça part. ça vient à 5h, 4h, à 6h, l'eau part. Et ça peut prendre comme ça, 2 semaines, l'eau ne vient pas. 3 semaines, on n'envoie pas l'eau. Bon, on va parler de l'eau potable. Et d'abord, il faut régler, résoudre les problèmes de l'eau tout court. Puisque la régie des eaux n'est plus à mesure de donner l'eau potable à la population. Mais que nous puissions commencer hein, au commencement, donc l'eau tout court, que la régie des eaux arrive d'abord à donner de l'eau à la population, avant d'envisager comment améliorer la qualité de cette eau-là, jusqu'à arriver à avoir l'eau potable. Eh bien, à l'intérieur du pays, je peux parler simplement de la volonté politique, puisqu'en 2013, moi j'étais en Mbandaka. Ça a pris des décennies, la régie des eaux est incapable de donner de l'eau à la population. Mais en 2013, quand le feu gouverneur Koyagel est arrivé là-bas, il avait déboursé de l'argent, il a mis les paquets à la disposition de la régie des eaux et la population de Mbandaka suit cette émission. Il y a eu de l'eau et tout le monde avait crié que ça fait des années, des décennies, la régie des eaux est ici, elle n'envoie pas de l'eau. Mais seulement dans quelques mois, il y a eu de l'eau. Et bien, depuis qu'il est parti jusqu'à aujourd'hui, cette population connaît comment ça se passe là-bas. En 2012, j'étais à Bouéndé, dans la même partie du pays. À Bouéndé, j'ai trouvé aucun robinet. Donc, la régie des eaux, je ne sais pas si elle existe là-bas. Et c'est pratiquement la même chose dans d'autres cités du pays. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de l'eau potable. La régie des eaux qui n'arrive même pas à donner de l'eau. L'eau tout court.
Alors pour vous, Maître Trésor, quand on parle de l'eau, ben, en fait, pourquoi il y a toutes ces rivières, on peut dire que chacun peut aller puiser n'importe où, mais là nous faisons le débat sur l'eau potable parce que l'eau, on en trouve. Hein. Dans tous les quartiers, on voit des rivières qui traversent la ville de Kinshasa, il y a le fleuve. Quelqu'un peut dire, voilà, je suis allé chercher de l'eau, mais vous, vous dites que le problème aujourd'hui, c'est que la population ait d'abord l'eau. Le premier débat, c'était là, et puis à voir le problème de cette qualité de l'eau après. Mais dès lors que nous nous rendons compte, Maître Trésor, qui est la régie des à toutes ces difficultés. Vous avez suivi tout à l'heure qu'il y a cette loi qui a été promulguée dans la libéralisation du secteur. Pour vous, quels sont les mécanismes encore plus faciles, comme ici à Kinshasa, qui puissent permettre à la population de pouvoir accéder à l'eau potable?
Bon, je ne suis pas assez d'accord pour la libéralisation totale de l'eau. Peut-être une libéralisation atténuée, puisque la régie des eaux a encore beaucoup à faire pour la population. La population a payé son argent depuis des années, mais cette population n'a pas bénéficié de l'eau. Il faudrait que la régie des eaux arrive maintenant à réhabiliter tout son réseau. Puisque même les investisseurs qui vont venir, ils vont trouver qu'il y a un réseau de distribution d'eau qui ne fonctionne pratiquement pas. Et ces investisseurs, quand ils vont venir, ils vont chercher également à créer leur réseau. Il y aura comme ça des réseaux, on ne saura pas qui donnera de l'eau potable que nous sommes en train de parler. Mm-hmm. Le secteur de l'eau, là, l'eau qu'on doit donner à la population, ce n'est pas comme l'histoire des logements, l'histoire de l'éducation. L'eau, c'est la vie. Quand on donne l'eau qui n'a pas une bonne qualité, on donne la mort.
Et vous souhaitez que la libéralisation ne soit pas total, qu'elle ne soit pas très ouverte, hein, sinon la régie des eaux, elle a quand même ses obligations envers la population et on risque d'avoir autant d'investisseurs, autant de réseaux de distribution. Ça risque aussi de poser des problèmes. Merci beaucoup, Maître Trésor de Kinshasa. Junior, vous êtes en Mbandaka. Vous avez suivi tout à l'heure, Maître Trésor, qui évoquait hein, cette situation, cette amélioration du temps du fait que la Gallo, gouverneur à l'Équateur. Mais aujourd'hui, quelle est la situation de la desserte en eau potable dans la ville de Mbandaka, mais aussi, surtout, des pistes et des solutions pour arriver à améliorer et là où le problème se pose, Junior?
Merci, monsieur. J'ai suivi mon co-débatteur tout à l'heure. Je prends gorge d'affirmer quelques astuces en ce qui concerne l'eau potable en Mbandaka, parce que d'ici quelques mois, nous remarquons quand même une fourniture d'eau qui arrive, qu'il y a quand même des retirs, des stocks liés à la matière pour servir la population. Mais ce qu'il faut toutefois, c'est regrettable de voir les statistiques publiées par l'UNICEF qu'un pays qui regorge beaucoup de ressources hydriques se retrouve dans cette condition. C'est un peu lamentable, et surtout, nous savons très bien que l'eau, c'est la vie. Bien sûr. Ouais. Pour ce qui concerne la survie de la régie des eaux, moi, je suis d'avis qu'on puisse libéraliser. Comme il y a déjà des lois, il serait certainement son application. Pourquoi? Parce que le Congo dispose autant de lois, mais il reste toujours de lettres mortes dans le tiroir, de ceux qui peuvent donner un coup de pouce pour son applicabilité. Ça pose un grand problème. En outre, je voulais aussi ajouter que cette libéralisation doit être effective et plus compétitive. Parce que laisser à l'État le monopole de servir la population, vraiment, je ne suis pas d'accord que la population complète sera en mesure d'être servie en eau potable, en quantité et en qualité.
Merci beaucoup, ingénieur. Mais il reste aussi, comme on l'a toujours dit, avoir beaucoup de ressources. C'est bien, c'est une potentialité, il faudrait la transformer aujourd'hui. C'est pourquoi il y a Maître Trésor qui est revenu sur la volonté politique, ce qui a été déjà dit par Amos, qui estime qu'il faut une volonté politique pour arriver vraiment à transformer ces ressources, ces potentialités, n'est-ce pas, en matière concrète pour que la population puisse accéder à l'eau potable. Vous soutenez la libéralisation en estimant que cela va amener la compétitivité vu les limites de la régie des eaux. Merci beaucoup. On va vous écouter, Maître Omar, vous êtes ici à revenir ici au studio pour donner la parole à notre invité. Maître Omar, bonjour. Bonjour et bienvenue. Thomas, vous êtes avec nous?
Oui, la mienne. Bonjour à l'invité.
Merci.
Oui, bonjour Pierre, bonjour à l'invité.
Bonjour, on vous écoute, maître.
Merci beaucoup Pierre, je vous remercie pour vous m'appuyer. Comme l'a dit maître Likunda, l'eau est un bien essentiel. Moi, je pense que la constitution de notre pays fait de l'eau un droit économique très fondamental. Et la loi relative à l'eau qui vient d'être récemment publiée oblige au gouvernement de veiller à la santé de la population, tout en lui accordant l'eau. Et si vous lisez cette loi de l'eau, vous allez vous rendre compte qu'il y a trois phases en eau. Il y a la phase de l'accessibilité de l'eau, la phase de la potabilité et la phase de l'utilisabilité de l'eau. Alors, il faut faire un constat rapidement ici à Kinshasa. Nous avons déjà l'impression que beaucoup de citoyens n'ont pas accès facile à l'eau, ce qui démontre une incohérence entre ce qui est fait en fait comme droit de la population et ce que nous devons sur terre. Deuxièmement, le peu de citoyens qui ont accès à l'eau n'ont pas banquier d'eau potable. Il suffit d'interroger quelques personnes, vous allez vous rendre compte que il arrive des fois que nous voyons des insectes sortir de l'eau, qui font l'heure de l'eau changer, et puisque nous ne sommes pas experts à la matière, on ne sait pas si l'eau que la régie de l'eau nous fournit est réellement potable. Il y a aussi un aspect par rapport à l'utilisation. Je crois que l'expert de l'UNICEF vous dira qu'il y a des techniques améliorées pour utiliser l'eau afin qu'elle ne soit pas détruite la santé. Donc, il pose là un problème de l'inadéquation de ce qui prévoit la loi, c'est que la population ait accès à l'eau et ce que nous vivons sur le terrain. Je ne suis pas avec les propositions parce que le plus important n'est pas de critiquer, mais de solutionner pour mieux faire prochainement. Moi, je suis contre la libéralisation qui, elle a déjà été prévue par la loi parce que c'est vrai, la libéralisation est un facteur de développement. Mais moi, je pense qu'avant de libéraliser, il faut aussi tenir compte des paramètres économiques de la population. Lorsqu'on va libéraliser, il y a des capitaux privés qui seront mis en jeu. Quelqu'un particulier investit et fournit l'eau potable, la facture payée ne sera pas la même. On a des citoyens congolais qui ont déjà des peines et des difficultés pour payer la facture de la région des eaux qui est moins chère. Or, ensuite, ils vont récupérer la facture qui sera, n'est-ce pas, établie par les particuliers. La libération de l'assurance de l'électricité est une bonne chose. Mais avant de la faire, il faut tenir compte des paramètres économiques. Moi, je pense plutôt qu'il faudra à ce jour renforcer la régie des eaux, notamment en lui donnant des matériels appropriés. Il ne suffit pas de poser au Parlement une loi relative à l'eau, mais encore faut-il accorder des moyens à ceux qui doivent fournir l'eau. Par exemple, à Kinshasa, il y a des tuyaux qui perdent de la colonisation. Comment voulez-vous qu'on ait de l'eau potable qui n'arrive même pas à réhabiliter les tuyaux qui existent depuis la colonisation? Deuxième chose, il faut qu'il y ait une capacité d'organiser les choses de la part de ceux qui cherchent cette société. On se rend compte, comme l'a dit mes prédécesseurs, des plus de clientélisme, de politisation, lorsqu'on nomme ce qu'ils doivent gérer. Et enfin, puisque le gouvernement n'arrive pas à fournir effectivement l'eau potable, je parle plus de potable, il faut que les ONG, le média, l'UNICEF et consorts, éduque la population. Il y a des techniques. Lorsqu'un gouvernement n'arrive pas à fournir l'eau potable, il y a d'autres techniques appropriées. Apprendre à la population à bouillir l'eau. Il y a des médicaments qu'on appelle des purifications, je ne sais pas comment, on peut l'utiliser en dehors de cela. Donc, si le gouvernement tarde à faire ce qu'il doit faire, parce qu'il y a des conséquences graves, des maladies graves, des choléra, pour les jeunes internationales, les agents de l'ONU, le média, arrivent quand même à sensibiliser la population.
Merci.
Donc, on vous fournit, on n'a pas assez de pression qui allait calmer. Il faut attendre à dire non.
Merci, merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, maître Omar. Voilà, voilà, ça c'est important. Mais vous avez dit, la loi déjà est consacrée à la libéralisation du secteur, mais vous avez peur que les investisseurs qui puissent aujourd'hui venir dans les secteurs ne puissent encore rendre l'accès à l'eau coûteux, ce qui posera peut-être des problèmes. Vu la précarité de la vie au niveau de la population, mais au-delà de tout, vous estimez qu'il faudrait aujourd'hui que ce soit le média, les ONG, l'UNICEF arrive à prendre à la population d'autres techniques de purification pour permettre à la population d'accéder à l'eau potable vu toutes ces difficultés de la société. Parce que, Michel, vous gardez la ligne, on va revenir à vous, 081-890-63, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Écho d'économie sur Radio Capi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, un reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Franck Abeille, nous revenons à vous. Vous avez suivi les uns et les autres. On a critiqué, mais quand même, il y a des pistes de solutions. Chacun au niveau de son milieu, de ce qui doit être fait pour accompagner cet échange autour de l'accès à l'eau potable.
Ouais. Bon, au-delà, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas mal noté, on parle des 5 chantiers, on parle du fait que ça fait partie de la constitution congolaise maintenant. Je voudrais quand même rappeler, quand même la base de tout, que l'accès à l'eau est un droit universel. Donc ça c'est quand même, où qu'on soit, que ce soit en RDC ou ailleurs à travers le monde, on se doit d'avoir un accès à l'eau, en quantité et en qualité. Bien sûr, ensuite on regarde les conditions climatiques, géologiques et toutes ces choses-là. Je ne veux pas m'étendre non plus sur le modèle politique, c'est-à-dire que pour moi, que ce soit un secteur privatisé, que ce soit un monopole d'État, au final, nous au niveau du ministère, c'est pas notre souci à ce niveau-là. C'est à l'État, à la population, de choisir le modèle qui lui correspond et d'aller dans le sens qui lui va. Ce qui en revanche nous importe, c'est de s'assurer que pas 50%, pas 20% ou pas 80%, mais que ce droit universel, c'est-à-dire 100% de la population, puisse avoir accès à l'eau. Et ça, pour nous, c'est ça, en quantité toujours en qualité. C'est ça qui est intéressant et qui est important, parce que c'est ce qui permet à une population tout simplement de vivre et de se maintenir. Donc, je pense qu'effectivement, au niveau de la régie des eaux, aujourd'hui, si on parle dans un milieu urbain, il y a quand même effectivement beaucoup de choses. Les impayés sont très lourds. Il y a aussi une quantité d'ayants droit assez forte, c'est-à-dire de personnes qui bénéficient de l'eau gratuitement. Donc, effectivement, ça contribue à avoir des difficultés de maintenance. Il y a effectivement probablement des problèmes de compétences techniques. Ça aussi, c'est un fait. Mais il faut savoir qu'en RDC, globalement, les cursus de formation pour les métiers de l'eau aujourd'hui sont quasiment inexistants. Donc, il y a effectivement tout un renfort à faire à ce niveau-là. Quand on parle de la loi sur l'eau, effectivement, elle a été promulguée. Mais quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, les décrets d'application n'existent pas encore. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail pour répondre à Junior qui va être important sur comment est-ce qu'on transcrit opérationnellement parlant ce qui a été voté. Et ça, c'est un travail qui doit se faire assez rapidement. Bon, c'est dans les mains du gouvernement. Nous, c'est vrai qu'avec d'autres acteurs, d'autres partenaires ou d'autres donateurs internationaux, on essaie de pousser pour que ça avance. Mais voilà, ça fait partie d'un calendrier général. Il faut juste avoir une dynamique assez intéressante. C'est que, officiellement, depuis maintenant 3 semaines, la RDC fait partie de ce qu'on appelle le SWA. Le SWA, c'est une initiative mondiale qui s'appelle Sanitation and Water for All. Donc, en français, ça voudrait dire l'assainissement et l'eau pour tous. Qui vise justement à permettre des échanges et à développer tout un cadre permettant d'assurer un accès à l'eau et à l'assainissement, j'insiste vraiment là-dessus, à la RDC. Donc là, ensuite avec un support international, des expertises, et voir un peu comment ça fonctionne dans d'autres pays. Donc là, la RDC en fait partie, en espérant que ça porte ses fruits de manière assez efficace et rapide.
Et il y a Omar qui disait tout à l'heure, parce qu'il y a ces difficultés qui connaît la régie des eaux, faut-il aujourd'hui développer d'autres techniques, d'autres méthodes qu'il faut apprendre à la population pour pouvoir accéder à l'eau potable, sinon les gens vont croiser les bras en attendant la régie des eaux. Il y a des quartiers où vous attendrez, il ne viendra pas aujourd'hui ou demain
Okay. Alors là, encore une fois de plus, c'est très intéressant parce que je pense que le besoin crée la demande. Malheureusement, c'est-à-dire que effectivement, il existe aujourd'hui des manières périphériques de se fournir de l'eau. Omar parlait de faire bouillir de l'eau, effectivement ce qu'on appelle de l'aquata, ce qu'on appelle du pur, qui permet de traiter l'eau. Dans les zones aujourd'hui qui sont encore où on sévissent encore des conflits, où on a des soucis de protection des droits de l'homme et ainsi de suite, donc principalement dans l'est du pays. Dans les camps, ces pratiques sont quasiment courantes. Dans les zones endémiques choléra, ces pratiques sont aussi très connues de la population. En revanche, dans les zones effectivement où on a moins de problématiques liées à ce type de contexte, on se retrouve dans des situations où la population connaît peu, où la population se dit pourquoi est-ce que j'achèterais du pur, pourquoi j'achèterais la quota, même si ce n'est pas connu, même si c'est pas cher, pardon, à quoi ça me servirait. Et on se développe dans ces zones, donc à l'est du pays et un peu au sud, des initiatives très intéressantes au niveau du marché privé, qui sont le développement, pour l'instant ce sont des ONG, mais qui vont, je pense, avoir tendance à devenir des sociétés. Donc nous, c'est vrai qu'avec UNICEF, on a pu aussi pas mal ce type d'initiatives, qui sont ce qu'on appelle des projets de reprise communautaire. Autrement dit, dans une zone, par exemple, choléra, on va apprendre à des sociétés ou des ONG à fabriquer du chlore et à vendre ce chlore. Et donc avec toute la chaîne qui y va autour, qui permet de créer en plus un lien économique, donc un lien social entre les populations et l'eau. Donc ce sont aussi ces dynamiques. Voilà, mais avant toute chose, effectivement, je pense qu'il est important quand même de rappeler que nous, effectivement, au niveau de l'UNICEF, que les ONG ou que les autres partenaires ont un effectivement devoir à ce niveau-là. Mais il reste important de bien stipuler que effectivement la première responsabilité incombe aux institutions et que une grande partie de notre travail, en dehors des parties de conflit et contexte, doit être liée à permettre à un gouvernement d'assumer ses responsabilités.
Mais il y a cette question autour de forage, on le voit des fois dans beaucoup de quartiers, on dit ça, tout ça, qui peut-être ne mettent pas longtemps à fonctionner, il y a des problèmes d'entretien, des fois ils tombent en panne, et souvent ça arrive, hein, les gens sont contents, mais quelques temps après, le problème de maintenance se pose, assez de moyens pour pouvoir entretenir ces outils, ça pose assez aussi des problèmes. Chaque fois quand il y a, par exemple, une ONG, on dit non, mais écoutez, nous, notre projet s'est limité tout simplement à vous fournir, le reste, on n'a pas le moyen de pouvoir revenir. Des cas comme ça arrivent de temps en temps.
Ouais. Bon, je pense qu'on en revient toujours à la même question. Est-ce que le rôle d'une ONG, c'est de fournir et d'entretenir après? Personnellement, je pense que déjà, si on fournit, c'est qu'effectivement, bon, il y a un besoin, mais on ne peut pas être constamment présent. Une ONG ne peut pas être constamment présent derrière pour dire dès qu'il y a une panne, on vient réparer. Donc, c'est à ce moment-là, où je vous parlais tout à l'heure de payer pour avoir de l'eau, que les modes de financement innovants doivent être importants. On parle aujourd'hui de microfinancement lié, par exemple, à tout ce qui est fournisseur d'eau. Pourquoi pas? Mais quand une pompe casse du fait de l'usage de la communauté, c'est à la communauté, a priori, d'assumer ce qui a été cassé. Donc, d'avoir des moyens de cotiser, d'avoir des moyens, et ça marche. Il y a des villages, il y a de nombreux villages aujourd'hui, à travers le programme village et école assainie par exemple, mais ils sont ouverts un compte en banque, qui réussissent à épargner et qui réussissent également grâce au fait d'avoir de l'eau propre à développer d'autres initiatives à côté en utilisant l'argent qui est donc donné par les communautés. Mm-hmm. Ça marche pas encore partout, mais ça se développe de plus en plus et c'est très intéressant comme dynamique parce que ça permet d'apporter un nouveau souffle, de créer toute une chaîne aussi d'approvisionnement. C'est-à-dire que quand vous avez une pompe, il faut des gens pour la réparer. Donc on crée un nouveau métier, où il faut des gens pour entretenir les margelles, les structures, donc on crée des métiers également de maçonnerie, des personnes qui vont vendre les pièces détachées. Donc là, une fois de plus, on recrée aussi un secteur, on aide à développer un secteur privé. Donc toute cette chaîne aujourd'hui, liée au métier de l'eau, et c'est là où je vous parlais que l'impact économique est fort, pour $1 investi dans de l'eau, on a $4 qui sont générés derrière. Et c'est vraiment toute cette chaîne aujourd'hui qui est important de regarder, qui se développe. C'est sûr que la période 1997 à 2001 n'a pas été très profitable, puisque même si vous donnez un chiffre très concret en termes d'assainissement, par exemple, en 95, 47% des populations urbaines avaient accès à des structures d'assainissement. Aujourd'hui, on a 15% dans les centres urbains. Donc, ça a vraiment, vraiment chuté dans cette période-là. Et maintenant, il faut remonter une pente qui est énorme.
Patrick, vous êtes à Bombashi. Bonjour, Patrick, et bienvenue.
Bonjour, Pierrot, et bonjour à tous.
On vous écoute, Patrick. Vous êtes à Lubumbashi. On sait que chaque fois quand on parle des lots, on revient sur ces constats, ces difficultés que nous avons dans notre milieu. Mais il y a aussi l'espoir, parce qu'il y a des mécanismes qu'on peut aujourd'hui définir, que ce soit chez vous à Lubumbashi, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Patrick, on vous écoute.
Ok, merci. C'est Patrick Mbouli, Kakama de Kumbashi. Je pense que la seule solution pour résoudre ce problème important en plein 21e siècle et après 55 ans d'indépendance de notre pays, c'est la libéralisation de ces secteurs. Parce que l'État congolais n'inspire pas confiance. Dans ce pays, ce n'est pas un problème de loi. Les lois existent, mais c'est un problème d'homme. Il n'y a pas de politique claire de gestion. Je vais vous donner un exemple simple. Ici à Lubumbashi, il y a à peu près quelques mois, on nous a raccordé à l'eau potable. Et ça fait 5 mois, où les agents de la régie des eaux ne passaient même pas pour prélever les données afin de nous facturer. Je suis allé aujourd'hui par ma propre volonté à la régie des eaux pour payer la facture, toutes les factures depuis 5 mois. Je pense que il faut peut-être libéraliser ce secteur pour donner la chance au peuple congolais d'avoir aussi une eau potable. Autre chose, c'est que nous devons savoir aussi la SNEL. La régie des eaux ne fonctionne pas seule. Elle a besoin de la SNEL pour fonctionner. Donc, aussi longtemps que la SNEL sera stable, voilà, la régie des eaux connaîtra le même problème. On va revenir sur le même sujet, sur le même problème qui ne se termine jamais. Donc, il faut qu'il y ait une politique claire de gestion et organiser les choses. Je pense que le peuple congolais attend de leurs autorités beaucoup de choses.
Merci beaucoup, Patrick. Oui, et d'ailleurs, parce que vous avez évoqué cette question, et nous avons ce message de Delphine Wakubulashika qui nous a rejoint sur la page Facebook des Kananga, et dit ceci: certainement, l'eau et l'électricité sont les deux choses qui sont devenues un luxe dans notre pays, et pourtant, cela marche ensemble, car pour avoir suffisamment d'eau, il faut qu'élargir les eaux et du courant électrique. C'est ça le problème qui se pose dans la ville des Kananga depuis des générations. Jordan Touba Jaiden Ahmed qui dit ceci: bonjour, Radio Kapi, depuis la province du Kasaï central dans la ville de Kananga. Vraiment, c'est trop, monsieur le journaliste, nous ne pouvons pas parler de l'eau potable dans la ville de Kananga. Il n'y a pas un service ici qui peut nous donner de l'eau potable. N'en parlons même pas, le service de la régie des eaux, ça, c'est réservé uniquement aux autorités. Alors, ça ne fonctionne pas, il y a des problèmes sérieux, le problème d'électricité, et toutes les questions se posent. Et d'ailleurs, pour l'amélioration de l'accès à l'eau à Kinshasa, il y avait ce programme de programme social, comme on le disait, hein, entre la régie des eaux et l'Union européenne, je crois bien, l'amélioration des flotteries, on l'a vu dans les communes de Lingwala, à Kalamo et ailleurs. Ça a été évoqué tout à l'heure par un auditeur par rapport à l'amélioration de la flotterie et rendre la régie des eaux performante. Merci beaucoup. Michel, vous êtes à Matadi. Bonjour, Michel.
Oui, merci, monsieur J.F.
On vous écoute, Michel. Le souci aujourd'hui, c'est de voir comment, dans notre milieu, répondre à ses besoins, comme on le disait tout à l'heure. C'est un droit, c'est un besoin universel, notre invité l'a dit. Le débat autour de l'eau, ce n'est pas une question seulement de notre conscience, de nos lois, mais c'est une question universelle.
Oui, moi je pense qu'il y a un intervenant qui a dit, c'est par rapport au gouvernement qui est irresponsable. Moi, sinon, ça défait une maladie d'un système. Moi, il faut remarquer toutes nos sociétés de l'État. Je crois que hier ou avant-hier, nous avons parlé de la SONAS. Il y a des mois passés, nous avons parlé de la SNAP. Hier, on continue à parler. Moi, je crois que c'est une maladie générale. Pourquoi? Parce que nous sommes à effet. On dirait que nous avons une vision d'hypothéquer toutes nos sociétés de l'État. Je vous ai dit l'autre fois, on peut changer de directeur à un autre directeur. Si nous n'avons pas nous-mêmes la vision de ce que nous voulons, moi je crois, nous allons changer, il n'y aura pas de la solution. Je vous dis, là où je suis, à Matadi, je vois les eaux. Mais ce matin, je vis à 4 heures, des gens parcourir de longues distances pour aller chercher de l'eau. Et chaque fois que nous disons, il y a aussi des risques. Lorsque les gens y vont au fleuve, il y a des morts d'hommes. Et aujourd'hui là, je vous dis, il y a des papas que j'ai vus, ils partent au travail sans repasser leur chemise. Ça, c'est un danger, mon frère. Moi, je crois qu'il y a des choses que vous nous demandez là. Il faut les demander parce que nous avons voté un président. Et lorsque nous étions dans des propagandes, il y avait des fiches, nous avons vu parmi les sites cités dans les fiches du président pour lors de ces affiches, il y a l'eau. Il y a l'électricité, il y a les sociales, tout ça, toutes les rubriques là. Moi, c'est que je demanderai. Cherchez aussi à rencontrer le président. Et vous avez promis, mais jusque-là, on ne voit rien.
Oui, Michel, vous êtes avec nous? Dommage, dommage qu'on a perdu Michel. Michel, je pense même que nous puissions nous approcher auprès du chef de l'État, parce que c'était l'eau et l'électricité était une promesse des campagnes. Mais Michel, c'est pourquoi vous avez aussi des députés, des sénateurs qui ont été élus dans à Matadi, au Bas-Congo. Leur rôle aussi, c'est de pouvoir s'approcher du gouvernement, poser la question. Pourquoi aujourd'hui, les gens n'accèdent pas à l'eau potable? C'est ça aussi le rôle de députés, de ceux que nous avons élus. Mais au moins, parole aux auditeurs permet quand même à la population de pouvoir dire aux tenants du pouvoir dans quelle situation ils se trouvent, et surtout en termes d'accès à l'eau potable. Mais vous avez insisté sur la vision que nous avons dans la gestion des entreprises. C'est cette faiblesse qui se retrouve aussi au niveau de la régie des eaux. Et n'oubliez pas que nous avions parlé de la dette intérieure, le gouvernement qui doit des millions à la régie des eaux comme à la SNEL, hein, c'est parce qu'il y a autant de sociétés, autant d'entreprises, autant de services qui consomment l'eau sans pouvoir payer, et autant la question, ce sera difficile aujourd'hui à la régie des eaux de pouvoir répondre si elle n'est pas en possession de tous les moyens. Merci beaucoup, Michel. Claude, vous êtes à Issiro. Bonjour, Claude, et bienvenue dans cet échange.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour et bonjour à l'invité.
Bonjour, côté Claude.
Merci. Je pense que j'ai fait mieux les interventions de mes prédécesseurs, mais les réalités diffèrent d'un milieu à un autre. Ici, à Issiro. Je pense que je vais souligner d'abord quelque chose, le journaliste, à ce pays qui se veut déjà révolu dans la modernisation, le problème d'eau potable ne pourra plus faire des questions de disputes sur cette radio au Capi qui l'a toujours fait. Mais ce que nous déplorons à Issiro, il n'y a pas d'eau potable, il n'y en a pas. Il n'y en a pas la régie des eaux qui est l'organe habilité à desservir les gens en eau potable. L'effet quand même, mais ce n'est pas toute la population, l'ensemble de la population qui est desservie. Et aussi la qualité de l'eau fournie par la régie Tironaire n'est pas vraiment propre à la consommation, parce que si mes souvenirs sont bons, et mon enseignant de l'école peut même me dire toujours que l'eau est écolore et inodore ainsi de suite. Mais si vous voyez la qualité d'eau qui est produite par la régie des eaux du Siro, vous sentez que l'eau là est vraiment colorée et a un peu de l'odeur. Si cela est du suite à la vétusioterie, qui utilise la régie des eaux qui date de l'époque coloniale. En tout cas, nous déplorons vraiment ça. Et je ne sais pas si l'invité qui est au plateau là a fait ses statistiques et a aussi tenu compte de certains milieux comme ici, où nous l'avons vu, aucun bruit dans ce sens-là, il n'y en a pas, monsieur le journaliste. Et si vous allez alors dans le milieu environnant, la petite ville d'ici, les gens en consomment d'eau impropre à la consommation, monsieur le journaliste. Raison pour laquelle il y a toujours des maladies d'ordre hydrique et hygiénique, et ainsi de suite, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Claude. Vous avez parlé de la révolution de la modernité. Vous estimez que si on devait avoir cette modernité, on n'aurait pas eu ces débats. Ça ne peut pas vraiment figurer aujourd'hui à l'ordre du jour des paroles aux auditeurs, mais c'est un problème sérieux. Vous voulez savoir si les enquêtes sont concernées aussi à Issiro, et là où la régie des eaux sert tant mieux que mal, mais il n'y a pas de forage depuis. À Issiro, tout comme dans la périphérie, c'est ça même la question, que cela soit considéré comme une priorité aujourd'hui. Maître Adrien, vous êtes en ligne. Innocent Armand Condoli de Kinshasa, et tout que pour améliorer la desserte en eau potable dans notre pays, il est souhaitable que la régie des eaux soit dotée de moyens financiers adéquats pouvant lui permettre d'atteindre toute la couche de la population, ainsi les réseaux étant devenus vétustes, car datant de plus de 50 ans, celui-ci est à renouveler. Il y a aussi notre compatriote Thomas Massikini qui nous a écrit des Guéména. Le service qui rend la régie des eaux à Guéména est un peu encourageant, mais ce qui reste à faire, c'est le prix. En bidon de 25 litres coûte 150 francs, alors qu'un ménage doit au moins utiliser 5 à 7 bidons par jour, ce qui conduit ces ménages à dépenser 1000 francs par jour pour avoir l'eau qui doit être consommée d'une manière journalière et utilisée. Alors s'il faudrait utiliser 1000 francs chaque jour alors qu'on vit avec moins d'un dollar par jour, ça pose un certain nombre de problèmes. Lui, Moutanga de Kamina, dans les Holomami, la régie des eaux ne peut en aucune façon s'en sortir s'il n'y a pas un appui extérieur important, étant donné les taux de desserte d'eau qui restent très faibles. En plus, lorsqu'on compare la structure de nos agglomérations en termes de longueur, la régie des eaux aura un défi avec la plomberie. C'est-à-dire, pour une cité de plus de 180 km, il faut disposer d'une tuyauterie conséquente. Sinon, ceux qui fabriquent de l'eau en bouteille gagnent beaucoup plus que la régie des eaux qui reste complice dans la propagation de maladie hydrique parce qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir atteindre toute la population. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, Pierre Lamengi. Bonjour à monsieur l'invité. Bonjour à tout le monde.
On vous écoute, Maître Adrien.
Oui, Pierrot, je pense que le problème de la régie des eaux est semblable aux autres entreprises publiques de l'État parce que c'est les mêmes difficultés que la régie des eaux est en train de connaître. C'est comme ça que moi je suis contre ceux-là qui estiment qu'il faut doter la régie des eaux des moyens et à là même toucher les partenaires extérieurs. Moi je me dis, en voyant comment est-ce que la régie des eaux fonctionne au niveau de notre province, un jour, j'étais inquiet. J'étais en déplacement avec mes collègues, mes confrères avocats à Ilebo. Mais on s'est rendu vite compte que donc la régie des eaux Ilebo décernait la population sans problème. Hein? Donc toutes ces dotations là, or cette régie des eaux d'Ilebo n'avait pas un soutien particulier. Et lorsque nous sommes rentrés ici à Kananga, heureusement que ça coïncidait avec le directeur provincial de la régie des eaux qui était dans une chaîne locale, et j'ai dû profiter pour lui poser cette question. Alors, mais comment à Kananga nous sommes en difficulté pour avoir l'eau de la régie des eaux, mais nous venons d'Ilebo, mais la population d'Ilebo est vraiment très calme et servie à temps réel, donc par jour au moins 14 heures ou 15 heures de l'eau. Donc l'eau coule à flot là-bas. Bon, il a essayé un peu de nous donner des explications. Les explications n'étaient pas convaincantes. C'est comme ça que moi, j'ai toujours soutenu, Pierrot, que la solution au problème des régies des eaux et des SNEL, il faut que le gouvernement prenne encore la décision courageuse comme il l'a pris avec la SONAF. Il faut libéraliser les secteurs de la régie des eaux. Pourquoi ? Parce que je me rappelle, dans les années 90, il y avait une autre société chez nous, je ne sais pas si cette société-là a aussi existé ailleurs, on appelait Strabac. Et Strabac se donnait aussi en matière de distribution d'eau. Et Régie des eaux était aussi là. Cette concurrence-là faisait à ce que chaque société puisse un peu améliorer la façon de distribuer de l'eau. Et puis aujourd'hui, à Kananga, c'est vraiment un casse-tête jusqu'à tel enfin que certaines personnes véreuses commencent maintenant à utiliser des bouteilles de certaines sociétés canadiennes pour mettre de l'eau impropre, vendre ça. Heureusement que le parquet général était vigilant et le parquet général ne cesse de ramasser tous ces aventuriers. Pourquoi ils profitent? Ils voient que la population n'a pas l'accès à l'eau. Et puis moi, je me demande le 50, le 51% là, d'où est-ce qu'on les tire? Parce qu'ici, nous, on a aussi mené des enquêtes. Nous sommes rendus compte qu'à Kananga, au moins 20% de la population a accès à l'eau potable. Et non, 51, 50. C'est comme ça que la solution dans tout ça, Pierrot, reste la libéralisation de ces secteurs.
La libéralisation du secteur. D'ailleurs, la loi, on l'a dit, il faut maintenant un décret pour la mise en application. Le secteur de l'énergie, de l'électricité a été déjà aussi libéralisé, comme le secteur des assurances. Vous souhaitez que ça soit ainsi. C'est le souhait de beaucoup de personnes. Avant d'écouter Gabriel et Nassor, qui sont en ligne avec nous, nous allons revenir à vous rapidement. Vous pouvez placer un mot, Franck Abeille, un mot par rapport à ce qui a été dit avant d'écouter les derniers auditeurs.
Bon. J'ai beaucoup aimé le principe de dire effectivement d'avoir une approche qui incorpore également la SNEL et tous les services afférents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, dans certaines zones, ce qu'on appelle endémie de choléra, un des principaux problèmes étant que on se retrouve dans une configuration où la régie des eaux ne peut fournir de l'eau parce qu'elle n'a pas d'électricité, donc la population n'ayant pas d'eau va en chercher dans les lacs, va en chercher dans les rivières, et c'est ainsi que le choléra, par exemple, se propage. Donc ça a un impact tout à fait direct. Après, que le système marche ou ne marche pas, moi je peux pas vous dire grand-chose, mais ce que je peux vous donner comme exemple, c'est l'Éthiopie, qui est un pays comme assez désertique. Alors, en 5 ans, donc ce qui est quand même fabuleux, en 5 ans, ils ont réussi à couvrir, ils sont partis de très bas, je crois qu'ils étaient autour de 25 à 30% de la population ayant accès à de l'eau en quantité et en qualité. En 5 ans, ils ont réussi à rejoindre 94% de la population. Donc avec une vraie, avec une politique qui a été menée de manière très forte, avec des moyens qui ont été investis de manière très très forte. Et ça, ce sont des chiffres, donc c'est possible. Après, effectivement, l'Éthiopie n'est pas non plus le Congo. Il y a une différence en termes de territoire, une différence peut-être en termes d'accès. Mais effectivement, je pense qu'à partir du moment où les axes forts sont donnés, les directions sont données, ensuite l'application sera derrière.
Gabriel, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, Gabriel. Gabriel, vous êtes avec nous, bonjour. Dommage que Gabriel de Kinshasa, on l'a perdu sous la ligne. Nassor, vous êtes à Kindu dans le Maniema. Bonjour Nassor.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capille qui sont branchés à ce moment précis.
Voilà, on vous écoute rapidement parce qu'on tend vers la fin de l'émission, Nassor. Et votre point de vue par rapport à cette question autour de l'eau potable à Kindu.
Oui, monsieur le journaliste, ce que je veux dire au propos des thématiques d'aujourd'hui est que l'eau aujourd'hui en RDG pose un grand grief. Le gouvernement congolais nous prie de temps en temps de cette terre. On se demande pourquoi ça. On ne sait pas. Non, vraiment. Par exemple, la ville de Kindu. C'est une ville qui commence à faire ravitailler lentement sur certains problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? La réussite des eaux de Kindu, c'est ce qu'il veut parce que aucune personne qui vient à donner un ordre vraiment, une parole méchante. Celui qui est directeur de cette institution aujourd'hui à Kindu n'arrive pas vraiment à satisfaire la population kindougienne. Monsieur Jouraïs, où est-ce qu'on peut encore voir une université telle que la grande université de Kindu qui manque encore de l'eau? Bon, je m'arrive parfois à me demander, bon, nous avons un grand fleuve Congo qui passe au milieu de la province du Maniema, mais nous constatons une carence. Bon, quand est-ce que maintenant cette ville sera électrifiée? L'eau tout court seulement pose un grand problème. Donc, nous constatons.
Et ça, c'est le constat qu'on a fait presque partout, Nassor. C'est ça, le fleuve, il va de Kinshasa, il est juste du côté droit, je crois, de mon studio. Mais c'est le même problème qui se pose presque partout. Hein. Les gens disent toujours, mais on a beaucoup d'eau, 53% d'eau douce, je crois, mais pourquoi on n'a pas. Faudrait-il aujourd'hui, comme le disait notre invité, définir une politique, avoir une volonté de pouvoir mettre les moyens nécessaires afin que cette eau soit transformée et que les besoins de la population soient vraiment pris en compte. Merci beaucoup, Nassor. Jean-Paul, vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans le Congo central. Bonjour, Jean-Paul.
Bonjour Pierrot, et je salue tout le monde.
On vous écoute, Jean-Paul. Le problème, le constat a été fait, mais pour vous, l'expérience de votre milieu, comment on peut arriver à vous aider à accéder à l'eau potable qu'ils ont envoyé?
Ah, c'est malheureux, Pierrot. Le constat est vraiment amer. Vous savez, dans tous les territoires de Sekebanza, la régie des zones n'existe pas chez nous. La régie des zones n'existe pas, sauf peut-être à Inga, sur le site d'Inga où les autorités de l'époque ont mis des sites de distribution d'eau, peut-être pour ravitailler les populations qui travaillent à Inga. Mais dans tous les territoires de Sekebanza, il n'y a pas, la régie des zones n'existe pas. Mm-hmm. Et ici, à Kinshasa, nous avons une source qui est captée. On donne de l'eau dans quelques quartiers de Kinshasa, mais qui n'est pas traitée. Alors, les gens se débrouillent pour fourrer la terre, pour mettre de puits. Lorsque vous mettez votre puits, vous verrez les gens du quartier ils viennent chercher de l'eau chez vous. Donc, ça se passe comme ça. Mais je me rappelle encore à l'époque de Mobutu, il y avait un projet avec les Japonais qu'on appelait Sémachère, je crois bien, c'est pour les Japonais. Il y avait des projets pour mettre des puits dans des milliers rio. Alors là, c'était de l'eau potable parce qu'il pénétrait pour atteindre la nappe qui est potable. Donc, selon les études, c'était de l'eau potable. Mais malheureusement, on ne sait pas comment ce projet.
Et d'ailleurs, pour terminer, nous avions reçu deux ou trois fois ici les directeurs du Service national de l'hydraulique rurale avec qui on a fait le débat autour de ces services qui doivent en principe s'étendre partout à travers le pays pour permettre à la population d'avoir l'eau potable. Merci beaucoup Jean-Paul, on ne sera pas plus loin parce qu'il faudrait qu'on puisse conclure cette émission avec ce message d'Inès Franck Moutébaloukoussa et dit, bon écoutez, Radio Capille, pour nous sommes fatigués de pouvoir apporter des idées à ces gouvernements qui dans 15 ans n'a pas résolu cette question, il ne pourra pas le faire dans quelques mois. On revient à vous, Franck Abeille, en 30 secondes, votre mot des conclusions pour cet échange.
Bon, mais je pense que les auditeurs ont relativement bien résumé ce que j'ai dit. De toute manière, effectivement, on a un problème de carence. On a, ce qui est frustrant, c'est que l'eau est là. Les mécanismes aujourd'hui sont touchables, sont atteignables, on peut y aller. Et la population commence à avoir un accès n'est pas encore suffisant par rapport à ce que l'on doit faire. Il faut qu'on regarde également ensuite à hauteur de 2030, où on aura la même population dans les villes que dans les villages. Et effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire de toute manière.
Merci beaucoup, Franck Abel. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les chefs de section eau, hygiène et assainissement à l'UNICEF ici en RDC. Merci à toute l'équipe des productions des paroles aux auditeurs. Gilles Longuembo était à la réalisation et à la coordination. Julie Feza était au standard. Mimi Kendoa assurée la mise en onde. Et Pierrot et la Mélie vous la présentez sous la supervision de Martin Sebouljang. Les paroles aux auditeurs, c'est aussi sur www.radiocapi.net. Il nous reste pour le moment à vous souhaiter une agréable compagnie, une agréable journée en compagnie de Radio Okapi. Mais n'oubliez pas aussi, paroles aux auditeurs, c'est en FM à 20h, 3 minutes heure de Kinshasa, en rediffusion, bien sûr. Au revoir.